Bonjour à tous. Je voudrais remercier l'Observatoire européen du plurilinguisme ainsi que, oui, en plein. Voilà, merci beaucoup. Ainsi que l'Académie d'études économiques de Bucarest de m'accueillir à ce colloque. J'ai participé aux Assises européennes de Rome en 2013, donc c'est un plaisir pour moi de revenir cette année. Comme d'habitude, j'ai été interpellée par l'appel à communication de l'OEP, puisqu'il pose les questions de fond qui m'intéressent dans mes recherches, à savoir comment mettre en œuvre la diversité linguistique dans les espaces de nos sociétés, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est à l'école, surtout. Donc, c'est une très courte présentation, je ne vais rien essayer de prouver, mais je vais essayer de partager avec vous les interrogations que j'ai concernant justement l'enseignement et l'apprentissage des langues à l'école. Et l'idée, c'est justement de pointer du doigt quelque chose qui est apparu au terme de ma recherche doctorale et qui n'a donc pas encore vraiment de réponse, et qui s'intéresse particulièrement aux finalités des enseignements des langues à l'école. Mes questions sont est-ce que l'objectif de l'apprentissage des langues à l'école est-il nécessairement de pouvoir communiquer dans une langue étrangère qui est imposée? En d'autres termes, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser les finalités des enseignements pour les collégiens, les lycéens? Doit-on nécessairement passer par le biais d'un enseignement purement communicatif qui tend à être de plus en plus un objectif utilitariste? J'en parlerai tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt une idée, une interrogation, peut-être un peu provocatrice pour les didacticiens des langues. C'est en tout cas quelque chose qui commence à se développer du côté des chercheurs anglo-saxons. Tout mon questionnement se profile à travers justement l'étude du contexte anglais, donc l'enseignement des langues à l'école en Angleterre. Mais c'est une réflexion qui peut aussi s'envisager pour d'autres contextes scolaires, dans la mesure où l'enseignement communicatif des langues est prégnant, je pense en tout cas, dans la majorité des pays européens. Je ne connais pas de pays qui utiliseraient d'autres approches. Pour parler de cette problématique, je propose la diversité linguistique comme point d'ancrage de ma réflexion. Tout d'abord parce qu'elle reflète une réalité sociale, c'est-à-dire un monde multilingue dans lequel on retrouve de plus en plus de citoyens plurilingues. Et c'est aussi le cas dans les classes de langue aujourd'hui, ou même dans les classes tout court, à l'école, tout simplement. C'est aussi un moyen d'assurer une cohésion sociale plus forte. Ce sont les travaux du Conseil de l'Europe qui ont beaucoup développé cette idée. Et aussi une éducation pour la démocratie. Tout comme c'est un moyen également de lutter contre les inégalités langagières qui sont de plus en plus dénoncées, notamment par Armand, mais bien d'autres linguistes, sociolinguistes, une diversité linguistique qui tendrait donc à essayer de contourner l'ethnocentrisme linguistique naturel des apprenants, même des locuteurs tout court. Par ailleurs, on sait que la diversité, implémenter une diversité linguistique à l'école permettrait aussi de développer un répertoire plurilingue et pluriculturel qui serait beaucoup plus bénéfique pour l'apprenant. Et pour son autonomie aussi dans l'apprentissage de langues nouvelles. Donc, tout ça, ce sont des théories qui ont déjà été étayées, notamment par Castellotti et Moore, Byram, mais encore beaucoup d'autres didacticiens. C'est aussi un moyen de valoriser les langues en présence dans la classe, et donc d'intégrer un peu plus les profils plurilingues en présence à l'école. Béaco, dans un texte récent, a interrogé justement les obstacles à la mise en œuvre de cette diversité linguistique à l'école. Et il préconise de questionner en fait tous les acteurs de l'enseignement-apprentissage, donc aussi bien les politiques linguistiques que les enseignants, pour essayer de comprendre ces résistances finalement à un changement de paradigme et à une implémentation d'une éducation plurilingue. Peut-être un petit, une petite photographie générale du contexte anglais et de l'enseignement des langues en Angleterre. C'est un cas un petit peu particulier, puisqu'effectivement il s'agit de locuteurs anglophones. Donc, c'est lourd de sens dans le sens où on se retrouve avec beaucoup de représentations sociales négatives vis-à-vis des langues étrangères, qui sont toujours très persistantes dans la société anglaise et qui sembleraient être un frein, voire même un repoussoir pour les scolaires. Donc, d'après Coleman, c'est aussi une vision qui est renforcée par les médias et qui joue un rôle crucial, donc les médias qui jouent un rôle crucial dans la circulation des images négatives à l'égard des langues étrangères, dont la répercussion serait nettement visible à l'école. On a donc deux discours opposés, contradictoires dans la société anglaise. D'une part, une vision dominante négative véhiculée par les médias et aussi par la situation politique actuelle avec le Brexit, par exemple. Et l'opinion, enfin les recommandations des discours officiels des politiques linguistiques qui sont en faveur de l'expansion de l'apprentissage des langues, qui se dirigent plus vers un éveil aux langues, une pluralité linguistique, mais qui n'est pas concrètement mise en œuvre sur le terrain. Une deuxième idée aussi qui reflète bien le contexte actuel en Angleterre, c'est donc le paradoxe dont je viens de parler, mais aussi un paradoxe contextuel dans le sens où dans les classes, bon alors peut-être pas partout en Angleterre, mais moi c'est vrai que mon terrain c'est plutôt Londres et sa banlieue, on retrouve vraiment des classes multilingues avec des locuteurs plurilingues, aussi bien chez l'enseignant que chez les apprenants, et qu'on est malgré tout en présence d'un enseignement des langues très cloisonné, tradition monolingue très ancrée qui n'est pas en passe de changer pour l'instant. D'ailleurs, un récent rapport du British Council a révélé que l'offre linguistique devenait de plus en plus pauvre en Angleterre, et en particulier dans le secteur public. C'est assez problématique dans le sens où on assiste de plus en plus à ce que Michael Kelly appelle un élitisme linguistique, qui est de plus en plus fort dans le contexte scolaire. Donc la question se pose quand même dans ce contexte assez frileux de vouloir changer les choses. Pourquoi apprendre une langue étrangère à l'école, en Angleterre en tout cas? On a vraiment une recherche de légitimité pour essayer de justifier les langues étrangères dans le parcours scolaire. Puisque, d'une part, l'idéologie du tout anglais est prédominante en Angleterre, malgré le profil multiculturel et plurilingue du pays, comme je l'ai souligné, il existe donc ce monolinguisme de tradition. Bien souvent, les raisons qui sont énoncées pour essayer de pousser les apprenants à continuer à apprendre les langues, puisque en Angleterre, la période obligatoire de l'apprentissage des langues et jusqu'à 14 ans. Ensuite, c'est un choix, on choisit ou non de continuer. Donc, bien souvent, les raisons invoquées sont plutôt des raisons utilitaristes, donc plutôt d'ordre professionnel. Et c'est la question qu'on a en droit de se poser. Est-ce bien le lieu de vouloir motiver professionnellement des étudiants. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un projet d'éducation aux langues plus large, hein? C'est la question que pose Laos, dont vous avez la citation ici. Par ailleurs, les motifs utilitaires qui sont donnés sont bien souvent incohérents, puisqu'ils ne reflètent pas du tout les objectifs communicatifs qu'on retrouve dans la classe, à savoir la communication du quotidien. Ils ne reflètent pas non plus l'offre linguistique, puisqu'on propose toujours les mêmes langues, français, espagnol, allemand, alors que si on était cohérent, on proposerait peut-être le mandarin ou d'autres langues. C'est donc un vrai défi pour les politiques linguistiques de repenser ces finalités d'enseignement, je le crois en tout cas. D'une part, parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est en train de revenir à une forme d'élitisme linguistique et une forme d'inégalité scolaire qui dépend largement de l'environnement social où étudient les élèves. C'est ce qu'a révélé en tout cas le Centre national des langues en 2006 et dans de récents rapports qui viennent de sortir, on a la même idée, hein, qui revient. Je ne sais pas du tout comment je suis niveau temps parce que je n'ai pas regardé. Bon, c'est pas grave, je continue. Mon idée de départ, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est est-ce qu'on ne devrait pas réinterroger finalement cet enseignement communicatif à l'école en tout cas, et est-ce qu'il est responsable en partie du déclin de l'apprentissage des langues auquel on fait face actuellement en Angleterre et la crise des langues qui est de plus en plus visible en Angleterre. Alors pour certains didacticiens, pour Hudson notamment, pour Macaro aussi, c'est une évidence que l'enseignement communicatif tel qu'il est appliqué aujourd'hui dans les classes de langues étrangères et a une grande part de responsabilité dans la démotivation des élèves à vouloir apprendre les langues. Je rappelle sur mon PowerPoint ici ce qu'est l'enseignement communicatif. Hein. À la base, c'est une idée assez honorable. Donc, être capable de communiquer dans une langue étrangère, développer des compétences communicatives et pas seulement maîtriser les aspects structuraux de la langue. Et aujourd'hui, c'est une idée qui est devenue une méthodologie assez figée et qu'on retrouve dans toutes les classes de langue en Angleterre et même ailleurs. Ceci dit, il y a de plus en plus de critiques à l'égard de cette approche, hein, c'est-à-dire que son application, celle du purement communicatif, est passée à l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on est vraiment focalisé sur des formes de communication et qu'on en oublie vraiment tout l'aspect normatif de la langue et aussi la dimension réflexive de l'apprentissage d'une langue. Donc cette simplification des principes communicatifs a conduit à une baisse de motivation à la fois chez les enseignants et chez les apprenants. C'est ce que nous disent en tout cas Coffey et Wingate dans leur livre qui est sorti très récemment. Des extraits de mon corpus, j'en ai pas beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ont tendance à montrer justement un petit peu ces défauts de l'enseignement communicatif tel qu'il est appliqué. Donc je vous ai juste mis un exemple, hein, mais j'en ai plusieurs dans ma thèse. Par exemple, dans une classe de français où l'objectif communicatif, c'est « to be able to talk about food », donc être capable de parler de nourriture.
Thank you, Emile.
Ah, ça y est. Yeah. Can you leave me 1 minute to conclude? Because okay. I was not... J'ai pas...
I will give you only 2 minutes, please.
2 minutes?
Yeah.
Okay, that's fine.
I give you 1 minute, I give you 2 minutes. Yeah.
I'm good at negotiating. Donc, vous voyez ici que Calvin, donc l'élève, dit, mais quel sandwich ? Bon, et Jane, qui est l'enseignante, lui dit, mais imagine le sandwich de tes rêves. Et Calvin lui dit, mais pourquoi est-ce que je devrais dire ça ? Mais parce que, souviens-toi de nos objectifs, on veut être capable de parler de nourriture. Oui, mais pourquoi est-ce que je devrais dire ça ? Qui le demande ? Bon, voilà, vous voyez un petit peu l'absurdité ici de vouloir faire du communicatif à tout prix, en tout cas, ce que les enseignants ont retenu de cette approche communicative. Je ne vais pas mettre mon deuxième exemple. Du coup, pour conclure, parce que je n'ai pas de solution, évidemment, mais je pense qu'on devrait s'intéresser à ce que j'ai relevé en partie dans mes recherches, c'est-à-dire au fait que les élèves sont très intéressés par les particularités, par les étrangetés de la langue, qu'ils ont une clairvoyance sur la langue, parce qu'eux-mêmes sont locuteurs, évidemment, de leur propre langue, même s'ils en connaissent qu'une, ils sont capables de repérer des petites pépites comme ça. Et quand on écoute leur verbalisation spontanée, on a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vraiment montré qu'on devrait, justement, les laisser s'exprimer un petit peu plus sur... leur imaginaire linguistique, leur représentation sur les langues, et ce qui aussi les questionne sur l'arbitraire de leur propre langue. Les Anglais n'ont pas trop l'occasion de le faire, puisqu'ils n'apprennent généralement pas vraiment la grammaire de leur propre langue à l'école. Un axe qui peut être intéressant, c'est la comparaison des langues. Je pense que mes collègues vont vous en parler avec l'intercompréhension, etc. Mais en tout cas, quand j'ai relevé des activités de comparaison spontanées, c'est-à-dire qui étaient amenées par les apprenants, j'ai relevé un réel intérêt de ces derniers, des questionnements, mais aussi vraiment une ambition de vouloir comprendre la complexité des structures, des systèmes, de vouloir connecter les langues entre elles et d'être conscient finalement des représentations linguistiques qu'ils ont eux ou que leurs profs ont. Donc il y a vraiment des discussions autour des langues, ça bouge, ça suscite de l'intérêt. Et je terminerai là-dessus, hein, donc c'est vraiment, je pense pour moi peut-être... Dans le contexte anglais, en tout cas, et même peut-être ailleurs, je pense qu'on aurait intérêt à reconsidérer pourquoi on apprend les langues et est-ce qu'on ne devrait pas passer, justement, avant de vouloir à tout prix enseigner les objectifs communicatifs.
Thank you.